Et oui, bonjour, la communauté de Coup Critique, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler de conspiration, de secrets gouvernementaux, de petits bonhommes gris et de bien plus encore. Aujourd'hui, je viens vous parler de Majestic 12, un jeu qui est actuellement en campagne de sous-financement sur Game on Tabletop ce printemps de l'année 2024. Si jamais vous écoutez cette vidéo plus tard dans l'avenir, dans le futur. Avant d'aller plus loin dans les thématiques, laissez-moi vous présenter les têtes dirigeantes du projet. Déjà, le jeu est publié par les Pattern Recog Edition, une boîte indépendante francophone qui est à l'origine de plusieurs traductions cool dans le milieu du jeu de rôle indie, indépendant et niché. Ils ont fait entre autres Troïka, Paléomythique, Warplan, le délicieux Warplan, excellent, Hypertellurien et Arc Doom. Cette fois-ci, surprise, il ne s'agit pas d'une traduction, mais bien d'un projet original francophone qui existait déjà sous une forme bêta. Ainsi, Cédric Molland est l'auteur de l'ouvrage, passionné de jeux de rôle depuis de nombreuses années. Il décide maintenant de sauter dans l'arène de la publication, s'alliant ainsi avec les Pattern Recog pour le financement de Majestic 12. Du côté des illustrations, c'est Guillaume Gente, je suis désolé si je ne prononce pas bien le nom de famille, qui s'y colle. Il offre un style bien à lui. Je vais y revenir plus tard lors de mon avis sur le visuel. Mais là, de quoi ça parle, Majestic 12? Ça vous donne peut-être une idée avec le début de ma présentation, et peut-être même si vous avez un tant soit peu plongé dans les conspirations des années 90 et même bien avant cela, si vous avez été fan de différentes séries télévisées qui abordaient justement les conspirations et autres, ça parle d'OVNI. Majestic 12, ou MJ-12, est le nom donné à une organisation gouvernementale secrète qui aurait été créée par le président Truman après l'affaire de la soucoupe volante de Roswell en juillet 1947. L'industrie aéronautique militaire participe dès le début au financement de l'agence par des caisses noires. En contrepartie, les entreprises étudient la technologie extraterrestre sur la zone 51, un complexe de Groom Lake pour l'intégrer dans leur projet militaire américain. Il est important de mentionner que tout ce qui est abordé dans le jeu, et c'est même dit dans le guide d'introduction, là, relève de l'Uchronie. C'est une histoire alternative qui n'a jamais existé, même si elle se base sur des événements, et là on entend le entre parenthèses, qui ont déjà été investigués par le passé. Ainsi, dans Majestic 12, les personnages seront des agents de cette agence secrète. Ils vont investiguer, travailler pour l'agence et résoudre des mystères entourant les fameux petits hommes gris. Vous pouvez ainsi facilement évaluer les références culturelles du jeu avec X-Files, qui est comme, je pense, une de mes séries fétiches, probablement dans mon top 3, Projet Blue Book, la série Fringe et les divers complots conspirationnistes qui sont, on ne va pas vraiment se le cacher, de plus en plus présent, encore plus dans nos vies à l'ère numérique. Le but de l'agence Majestic 12 est de cacher des preuves, de les détruire et de trouver une astuce pour montrer qu'il y a une argumentation scientifique derrière chaque phénomène OVNI. Si les agents trouvent de la technologie extraterrestre, ils ont pour mission de la faire ramener dans la zone 51. Avec les années, l'agence a grandi, mais elle est toujours restée secrète. Il y a de plus en plus de missions pour les agents, car l'information circule très vite. Mais attention, officiellement, l'agence n'existe pas. Elle agit en sous-marin et parfois même de façon illégale. Si elle devait être découverte, en plus du fait que les contribuables américains apprendraient l'existence des extraterrestres, bien les femmes et les hommes politiques de tous bords qui aident dans l'ombre seront jugés pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. Ça coûte cher, cette agence-là. Le scandale, s'il arrivait, pourrait mettre le pays dans une bien mauvaise posture. Les agents de Majestic 12 doivent suivre à la lettre certaines consignes qui sont les suivantes. Il est interdit de parler de Majestic 12. Il est interdit de laisser toute trace de présence d'OVNI. Les agents ont tout pouvoir pour que les preuves de présence d'OVNI disparaissent. Les agents ont le droit d'enfreindre la loi de leur mission. Si l'agent devait être découvert, Majestic 12 couperait tout contact avec l'agent et les représentants du gouvernement américain nieront toute implication de leur part dans les agissements de Majestic 12. L'agent de terrain utilisera toujours une fausse identité pendant une mission. Vous comprenez que vous êtes un peu laissé à vous-même. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous ne pouvez pas vraiment compter sur Majestic 12 pour vous sortir du pétrin si jamais vous êtes dans une situation un peu épineuse ou si vous êtes un peu découvert. Je pense que vous comprenez bien l'ambiance qui est reflétée par ce jeu et qui propose comme type de partie. Là. C'est de l'investigation, des manigances, des jeux derrière le rideau, de l'action, des découvertes bien sûr, et du contrôle des répercussions possibles sur le terrain, contrôle de dommages. Côté mécanique, Majestic 12 repose sur deux types de jets possibles. Il y a les jets de base qui sont basés sur une difficulté. Un personnage doit lancer plusieurs D6 qui représentent la somme des attributs et des compétences. Chaque doublon représente une réussite de la valeur du doublon. Donc, si vous lancez plusieurs D6 et vous avez un double 2, eh bien, ça équivaut à 2. Si vous avez un double 4, ça équivaut à 4. Le résultat doit être égal ou supérieur à un niveau de réussite demandé. On additionne les doublons ensemble pour déterminer en fait le résultat final. Les niveaux de difficulté vont de 3 pour un test qui est quand même assez facile à 8 et plus pour un test qui est très très difficile. Et finalement, il y a les jets opposés. Les jets en opposition sont utilisés pour un affrontement entre personnage joueur et personnage non joueur, que ce soit physique ou psychologique. Celui qui aura la valeur la plus élevée lors de son jet avec le plus de doublons, eh bien, il réussira son action. Et pourquoi ce système de mécanique de jeu, précisément dans Majestic 12? Eh bien, Majestic 12, l'idée n'est pas de faire de lancer à chaque action des PJ. C'est pas parce que quelqu'un veut accomplir une action qu'il va immédiatement lancer des dés. Il faut que le maître de jeu garde en tête que les jets de dés doivent être faits quand les joueuses ou les joueurs veulent dépasser la limite de ce qui est possible. Il s'agit d'une scène fatigante ou stressante pour celle qui la joue, on s'entend, le but ce n'est pas que ce soit juste des petits lancers de dés plaisants, il y a tout le temps quelque chose qui est en jeu. C'est pour cette raison que les mécaniques de jeu ont un taux de réussite assez bas afin de forcer les joueuses et les joueurs à utiliser leur jauge de stress ou de fatigue, qui est une autre mécanique du jeu qui permet un peu de venir calibrer, de venir augmenter leur chance de réussite. Ils devront apprendre à gérer leur jauge tout au long d'un scénario ou d'une campagne. En ce sens, les mécaniques me font beaucoup penser au Year Zero Engine. Les jeux de la Free League comme Alien ou encore Mutant Year Zero, on ne lance pas les dés à chaque opportunité. Il doit avoir un enjeu, une raison, une répercussion sur l'échec et la réussite. À la création de personnages, la joueuse ou le joueur a 16 points à répartir avec un minimum de 1 et un maximum de 3 par attribut. Les attributs représentent un peu les caractéristiques de base d'un personnage. Il y a la force qui correspond à la puissance musculaire, c'est la composante primordiale de la fatigue. Il y a l'intelligence qui représente la rapidité de réflexion du personnage, c'est aussi la caractéristique qui va gérer également le stress. Il y a la coordination qui regroupe la dextérité, l'attribut qui regroupe tout ce qui est à la dissimulation, vouloir se cacher. Il y a l'éducation qui représente le savoir acquis à l'école ou en formation. Il y a également la volonté, qui représente la résilience psychique du personnage par rapport à certaines menaces externes. Et aussi, elle gère également le stress et la fatigue du personnage joueur. C'est un peu en collaboration avec l'intelligence. Un point que je trouve particulièrement intéressant dans le jeu, c'est le concept de la perception. La perception, souvent dans des jeux d'enquête, c'est un peu la mécanique fourre-tout. C'est souvent une mécanique qui va être utilisée à toutes les sauces et à toutes les occasions par les différents personnages ou même par les personnages non-joueurs. C'est souvent une mécanique qu'on va vouloir mettre le plus de points dedans pour être sûr qu'on soit les meilleurs à vouloir découvrir ce qui est caché, surtout dans des gammes et des univers qui vont justement mettre une emphase sur la recherche, l'investigation, la découverte et le mystère. Eh bien, Majestic 12, et ça pour vrai, c'est quelque chose que je trouve très cool, a une mécanique qui a été mise en place pour éviter un peu ce roulement de dés inutile pour la simple perception. Je veux percevoir quelque chose. La perception, en fait, elle est décomposée en 4 compétences. Et ces 4 compétences-là sont associées directement aux attributs de base. Donc, selon la manière que vous voulez percevoir votre environnement, ça va dépendre de l'attribut que vous allez utiliser. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez toucher pour pouvoir découvrir quelque chose, toucher le mur pour voir s'il y a comme un espace secret ou autre, eh bien, ça va utiliser l'attribut coordination. Par exemple, toucher pour comprendre l'état d'un objet qu'il tient. Ensuite, il y a écouter qui va avec l'attribut volonté. Faire un test pour écouter pour comprendre une discussion ou un bruit. Ensuite, il y a observer, qui est lié à l'attribut intelligence, faire un test observé pour comprendre ou analyser une situation visuelle ou une image. Il y a aussi également le goût et sentir, les deux vont ensemble, qui va avec l'attribut éducation. Faire un test de goûter ou sentir pour définir le goût ou justement l'odeur d'un aliment ou d'un objet. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très cool parce que la perception, c'est vraiment une compétence souvent générique qui ne veut pas dire grand-chose au final parce que tous les personnages vont avoir des points investis dedans et ils vont tous un peu être équivalents sans pouvoir être avantagés d'une façon ou d'une autre. Donc, d'avoir en quelque sorte des sous-branches de la perception, ça permet aux différents personnages d'avoir des spécialités, d'être meilleurs dans certaines circonstances puisque leur attribut est meilleur également, mais également aussi, ça permet en fait de parfois limiter l'utilisation, je dirais, de certains attributs pour découvrir des choses cachées. Par exemple, si, mettons, justement, on essaie de découvrir une pièce cachée, puis on touche un mur pour voir s'il n'y a pas un double fond ou quelque chose comme ça, bien, on s'entend qu'on ne peut pas utiliser le goût, ni l'odeur, ni l'odorat pour pouvoir découvrir la pièce, sauf si bien sûr le maître de jeu le permet, mais de prime abord, on ne peut pas le faire. Ainsi, il y a une certaine façon de tirer son épingle du jeu, de ne pas être tous sur le même pied d'égalité lorsque vient le temps de percevoir une situation. Dans Majestic 12, il existe deux jauges pour gérer la santé générale d'un personnage. Il y a la fatigue qui représente la condition physique d'un personnage, et à chaque échec sur une action physique, le personnage perd un point dans sa jauge de fatigue. La fatigue est calculée selon la méthode suivante, l'attribut de force plus l'attribut de volonté. Il y a aussi le stress qui représente la condition psychique d'un personnage, et à chaque échec sur une action psychologique, le personnage perd un point dans sa jauge de stress. Le stress est calculé selon une autre méthode, l'intelligence plus la volonté, divisé par 2, arrondi ou supérieur. Il est possible d'utiliser un point de fatigue ou de stress selon l'action pour tenter de relancer un dé. Comme moi, je l'ai mentionné tout à l'heure, les niveaux de difficulté sont assez élevés par rapport au dé que vous allez lancer. C'est plutôt difficile d'accomplir une action, c'est pourquoi on ne lance pas les dés à tout moment, mais le fait d'avoir en soi des points de stress ou de fatigue, eh bien, ça permet de quelque sorte de venir contrebalancer, de se donner des chances, mais au fil de l'aventure, on va se fatiguer, on va être plus épuisé et éventuellement, il va falloir se reposer, reprendre des forces. C'est un peu comme n'importe quel agent de terrain, il faut lui donner une chance à un moment donné. Bien entendu, il y a d'autres mécaniques de jeu que je ne vais pas mentionner ou que je ne vais pas élaborer pour le moment, comme par exemple le combat, la dépense d'expérience ou encore aussi l'éducation, la formation de personnages. Je vous conseille de financer le jeu si vous souhaitez en découvrir plus, mais tout de même, ça vous donne une bonne idée sur ce que je viens de vous présenter. Côté visuel, bien entendu, au moment où je vous mentionne le tout, le jeu n'est pas encore publié. Ainsi, le kit de découverte auquel j'ai eu droit ne reflète pas l'ensemble de ce que le jeu propose comme visuel. C'est ce que l'auteur m'a mentionné. Toutefois, je peux déjà le dire que j'apprécie beaucoup la touche personnelle de Guillaume Genté. Encore une fois, désolé pour le nom de famille. Même que je trouve que c'est très logique d'avoir droit à des illustrations qui sont noires et blanches. Ça colle vraiment bien avec le thème du jeu. D'ailleurs, sa patte me fait beaucoup penser aux illustrations de la toute première mouture, la toute première version d'Apocalypse World, le tout premier PBTA. Une espèce de, justement, contrasté où parfois la forme du personnage va se perdre dans le fond noir de la scène. Et moi, j'aime ça. En fait, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça colle très bien. Je préfère ça que quelque chose de très coloré, de très pastel ou autre. Ça va vraiment dans le ton. À ce niveau-là, moi, j'ai rien à redire. J'apprécie bien. J'ai hâte de voir le produit final, mais pour l'instant, je suis bien satisfait. Et pour mon avis personnel, pour l'instant, ce que je peux dire de Majestic 12 repose bien entendu sur ce qui est disponible. De mon humble point de vue, je suis vraiment content de voir apparaître sur le marché ce type d'initiative-là, mais encore plus de voir apparaître ce type de proposition-là pour des financements participatifs. Parce que, en mon sens, oui, je suis un être de contradiction comme tous les êtres humains. Je ne le cache pas, je vais aider à faire financer des projets lancés par des grosses boîtes qui, au fond, n'auraient pas tant besoin d'une plateforme de socio-financement pour le faire. Toutefois, des projets comme Majestic 12, c'est exactement, selon moi, c'est la raison pourquoi des plateformes de socio-financement existent. C'est un projet de cœur mené par une petite équipe qui souhaite proposer une version imprimée d'un jeu qui en vaut la peine. Parce que oui, selon moi, Majestic 12 en vaut la peine, surtout dans la francophonie. À l'heure des gros projets, aux gros systèmes, aux grosses mécaniques bien complexes, aux univers approfondis qui sont publiés en plusieurs exemplaires, c'est plaisant de retomber dans ces pantoufles de la simplicité, mais une simplicité qui fonctionne. Les mécaniques de Majestic 12 sont assez simples, mais ça roule bien. Ce n'est pas basé sur du vent. Et le jeu propose un cadre qui offre une base sur laquelle vous pouvez construire. Moi, j'adore ça. C'est vraiment exactement mon genre de jeu dans les mécaniques comme dans l'univers. On comprend les référents, on va au nécessaire et on le reste. Vous en faites ce que vous voulez, en fait. Je pense que le seul élément, je crois, que j'aimerais voir apparaître pour aller dans cette optique-là de jeu indépendant, ce serait une mention de publication concernant une licence qui permettrait la création de suppléments commerciaux par des créateurs et créatrices indépendants non associés directement aux auteurs de Majestic 12. Pourquoi? Eh bien, parce que je trouve que ce genre de jeu-là gagne énormément à ouvrir la porte à une création de communauté pour assurer une popularisation et un partage de bouche à oreille pour le long terme. Au fond, c'est ce que je souhaite à Majestic 12, là, une longévité. parce qu'il prend sa place dans un style, un créneau qu'on voit pas beaucoup en francophonie, et ça, je ne peux qu'encourager ça. Moi, j'aime ça, j'aime beaucoup ça, en fait. Je me verrais faire des parties de Majestic 12, puis alterner ça avec un autre jeu tout de suite après, parce que les deux, dans ma pratique, disons-le ainsi, je vois alterner des jeux facilement parce que justement, ils ont des mécaniques qui vont être rapides à prendre en main, que la création de personnages va être rapide, que l'univers va être facile à comprendre. On n'a pas besoin de lire une encyclopédie sur le sujet. Moderne, en plus, dans un contexte moderne. Puis on peut sauter d'un jeu à un autre sans difficulté. Donc, allez voir ça. Vous avez jusqu'à la mi-mai 2024 pour participer au financement. Si vous êtes comme moi, avare de conspirations, de mystères à relever, d'uchronie, de modernité et de science-fiction, Majestic 12 est une valeur sûre, j'en suis persuadé. Et en plus, vous encouragez un produit indépendant. Les informations menant à la campagne de sociofinancement sont disponibles dans la description de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous pensez financer le jeu. Dites-moi si ce type de thématique vous parle. Laissez un petit pouce, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir d'y répondre. Et pour les autres, on se dit au prochain mystère.